Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver tous les soirs ici. On parle d'art avec les artistes pendant trois quarts d'heure. Ce soir, Yannick Enel de la littérature, un papillon noir et une femme vivante.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent. J'ai fait une étrange expérience en écrivant, j'ai vu une voix. Cette voix était celle d'une femme, j'en étais sûre, et elle se déplaçait le long d'un mur. Au début, je n'entendais pas bien ce qu'elle disait, d'ailleurs je ne la voyais pas non plus. Pour la voir, pour qu'elle m'apparaisse clairement, il fallait que je tende l'oreille, il fallait que j'écoute. C'est comme ça avec la littérature, la voix décide de la lumière ou des ténèbres. Beckett dit ça dans un de ses récits, la voix émet une lueur. Et en écrivant, c'est exactement ce que je voyais, un feu qui parle dans le noir, la naissance de la parole, l'instant qui ne se représente pas. J'avais l'image d'un couloir avec une femme qui avance dans l'obscurité et je me disais, ce couloir mène à l'instant. Quel instant ? Nietzsche parle de la poussière de l'aile de l'instant, ce papillon. Comme à travers un battement d'aile, quelque chose s'allume et s'éteint à l'intérieur de chaque instant. Une telle chose ne cesse de s'achever et de reprendre. Ce sont vos mots, Yannick Enel, non pas tirés du papillon noir, mais du texte qui le suit dans sa publication aux éditions Gallimard. C'est un texte qui s'appelle « Longer à pas de loup » et où vous parlez de cette femme, de cette voix qui, dans Papillon Noir, commence par s'exclamer au téléphone et après un accident « Je suis vivante, tu comprends, vivante ». Alors comment le sommes-nous, vivant, pendant combien de temps, après quoi, pendant quoi, avec quelle force et quel désir ? Tout est agité dans ce très beau texte, pensé comme une sorte de monologue, de bref roman, mais aussi comme un texte pour la scène, puisqu'il a été mis en scène en musique par Yann Robin, en scène par Arthur Nosiciel au Théâtre National de Bretagne, et puis interprété par Élise Chauvin. Et les métaboles pour le cœur, voilà à peu près pour toutes les informations. Pour ce qui est du planning, j'ai envie de rester un peu flou. Yannick Enel, bonsoir.
Bonsoir.
Flou parce que je ne sais pas encore ce qu'il en sera de cette création du papillon noir. Peut-être que vous en savez davantage.
Oh, je ne sais pas trop non plus. Enfin, elle a été jouée une fois à Marseille, elle a crié, et puis très récemment en huis clos à Rennes, puisqu'Arthur Nosiciel, qui est le directeur du TNB, en assure la mise en espace. Et donc il y a une captation vidéo qui a été faite. Vous voyez, elle va peut-être être rendue publique, et il y a quelques dates qui sont prévues, mais je ne sais pas trop. Je sais plus au fond, je suis comme vous, mais je me dis que c'est grave pour la scène, mais c'est pas très grave pour l'esprit, enfin l'esprit du texte, la lettre même, l'esprit et la lettre. Voilà, c'est aussi de la littérature. Enfin, je l'avais conçu en collaboration avec Yann Robin, donc ce compositeur de musique contemporaine. Mais pour moi, c'est un texte, donc c'est quelque chose à quoi je continue à rêver. C'est quelque chose qui, quand on le lit, suscite sa propre représentation intérieure. D'autant que, comme vous l'avez dit, ça parle d'une chose qui est irreprésentable elle-même.
Et qui serait peut-être la naissance de la parole, en tout cas une espèce de feu, ou bien du premier feu de la parole, ou bien de son dernier feu. Puisque si cette femme s'exclame « je suis vivante » et qu'elle le répète comme un mantra, comme une sorte de découpage du langage qui dirait ça, il n'est pas impossible qu'elle soit précisément en train de prendre feu devant nos yeux ou de mourir. C'est très beau la manière dont vous en parlez dans ce texte à la fin de la publication du livre. Quand vous dites « j'ai fait une expérience étonnante en écrivant ce livre, j'ai vu une voix ». Est-ce que vous voulez bien la détailler pour nous, cette expérience-là ?
Ben, vous savez, je crois que j'attendais ce moment depuis une vingtaine d'années. Je ne dis pas que j'ai réussi à l'atteindre, mais quelque chose est arrivé, effectivement, qui est là tout le temps dans l'écriture. Dans le caractère, je dirais, nocturne et féminin de l'écriture, dans l'endurance que j'essaye d'avoir dans ce face-à-face, au fond, de plus en plus nu. Et il m'avait semblé qu'à chacun des livres que je publiais, et puis parfois lors de livres que je fichais à la poubelle, vous voyez, après des mois et des mois, il m'avait semblé parfois croiser cette étrange vision d'une voix, cette voix de fin silence, comme on dit dans la Bible. Et parfois dans Yann Karski, je me souviens, vers la fin, les deux, trois dernières pages, je me souviens encore de les avoir écrites, une nuit de feu, justement, j'aime bien que vous utilisiez ce mot de feu. Et puis là, c'est arrivé. Et c'était une femme. Et je voyais sa voix, je voyais, elle n'a pas de visage. Et j'ai noté pendant plusieurs nuits, c'était vraiment dans le noir. Ça sortait du noir, disons, et je n'ai pas compris si je me la raconte pas en vous disant ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a, enfin, dont je suis très fier. C'est pour ça que j'ai écrit un petit texte explicatif après. C'est pas pour expliquer la pièce ou le texte lui-même. C'est parce que le moment où je l'écris est presque plus beau pour moi que le texte lui-même. J'ai pas compris si c'était un moment de naissance ou un moment de mort. Et je me suis dit que peut-être l'instant de la mort, enfin l'instant de l'instant, relevait d'un ravissement, d'une extase. Et que peut-être cette étincelle, cette lacune qui ne se dit pas, enfin personne n'est jamais revenu pour nous en parler, c'était peut-être le moment où la parole naissait en nous et que peut-être tout était à l'envers, vous voyez, comme dans un film de Godard, enfin, un film que peut-être il n'a pas tourné d'ailleurs, où on naîtrait au moment de la mort et puis on se mettrait à parler avec quelque chose qui serait arrivé à la fin, vous voyez, comme une mèche, comme quand Pierrot le Fou allume la dynamite, on raconterait le chemin du feu, enfin, vous voyez, pour arriver jusqu'à l'explosion. Voilà, je m'égare déjà, mais il s'agissait de ça, de cet égarement, et j'étais très heureux de pouvoir réaliser ça sous la forme de 30 petites pages d'écriture qui sont un monologue féminin, voilà.
Mais on va quand même rester un peu dans cet égarement avec vous, Yannick Yanel, parce que ça nous permet de nous approcher de quelque chose qui est assez rare, qui est qu'est-ce qui se passe quand il apparaît quelque chose à quelqu'un qui écrit. Qu'est-ce qui se passe presque physiquement? Parce que finalement, c'est à la fois ce que vous dites dans le texte Longé à pas de loup, mais c'est aussi presque ce que vous dites dans Papillon noir, c'est que vous réussissez à rendre physique, au sens de la lumière dont il est beaucoup question, un acte qui normalement est très difficile à rendre physique, à donner du corps, quoi. C'est-à-dire, oui, à savoir parler et écrire. C'est comme si dans ce texte il y avait aussi l'enjeu de matérialiser ça.
Je crois que c'est la chose même. Enfin, c'est pour ça que je vous disais qu'il m'a semblé que là j'étais au plus près de quelque chose que je cherche et à quoi je me rends disponible, effectivement. Ce qui se passe dans l'écriture elle-même, et là je pense comme ça vient me traverser, enfin, je pense à Duras ou à Musil, enfin, des expériences trop grandes pour moi, disons, et trop belles pour moi, mais il y a une matière noire qui est à l'œuvre, et c'est comme ça que ça m'arrive en tous les cas. C'est comme ça que j'aime que ça m'arrive. Cette matière noire, comme dans l'univers, elle suscite à la fois un vide et elle attire à elle toutes les étoiles, enfin toutes les lumières. Et je me dis que ce que raconte ce texte, Papillon noir, c'est une sorte de témoignage sur le vivant, enfin sur la manière dont nous nous manifestons sans cesse à travers la respiration, l'écriture, le chant, l'amour. À savoir que ça ne se représente pas, au fond. On substitue à tous ces instants qui sont les seuls qui comptent, finalement, On substitue de la cursivité, enfin de l'écriture, de la communication, si je puis dire. Mais au fond, il ne s'agit pas de ça. Enfin. Et donc, comme je savais qu'en essayant de transcrire cet état où tout vient, en dotant cette femme qui vient d'avoir un accident, c'est comme ça que je me l'imaginais, en la dotant d'une espèce de sensibilité extrême, où il y a toute sa vie qui lui revient. Je parlais tout à l'heure de Godard, mais il y a cette scène dans Sauf qui peut la vie, où Dutronc se fait renverser par une voiture, et il dit « Ah merde !» parce qu'on est chez Godard, on a le droit. « Ah merde, c'est donc bien vrai, on voit le film de sa vie au moment de la mort. » Et j'ai doté cette femme d'une ultra-sensibilité où tous les amours de sa vie, elle a aimé des hommes, elle a aimé des femmes, ils arrivent tous, ils sont tous là. Il y a une coprésence, si je puis dire, une présence absolue de tout. Et j'ai un peu divagué, comme dirait Mallarmé, enfin, en me disant peut-être que l'instant de l'instant, celui de la mort, mais pourquoi pas celui de la naissance, je ne sais pas, c'est celui où tout se récapitule, mais en vrai, comme vous le dites, très physiquement. C'est-à-dire que tous les gens qu'on a aimés sont vraiment là, avec nous, on sent leurs caresses. Et pour moi, l'écriture, quand ça arrive vraiment, c'est très rare, enfin, quand on est à la pointe, à ce point de solitude où l'écriture transparaît, si je puis dire, où elle traverse la présence, toutes les présences, alors ça convoque le vivant tout entier, enfin, le monde est là, voilà.
Je suis vivante, tu comprends? Vivante. Et tu sais, au moment du choc, il s'est passé quelque chose. Plein d'étoiles dans mes yeux, des éclairs très froids. Ça ne m'était jamais arrivé. Mais non, je ne délire pas, maman. Les urgences, c'est franchement au-dessus de mes forces, là. Il m'a renversée. Voilà. J'ai mal à l'épaule, c'est tout. Je suis secouée, je n'en peux plus, je travaille trop. Mes nouveaux médicaments me tuent. C'est bizarre. Je ne l'ai même pas entendu arriver. Juste le choc. Et tout s'est mis à tourner au ralenti. Les arbres, le ciel noir, les feux rouges.
On entend ici Annie Quesnel, Élie Chauvin dans la version musicale de ce Papillon noir. Tout à l'heure, vous avez décrit avec précision comment cette femme était arrivée, avec sa voix, avec vos mots pouvant rendre sa voix. Et du coup, je me suis dit, ça devait être un peu bizarre de voir arriver une interprète, un autre corps, une autre manière de la porter qui forcément ne pouvait pas coller avec ce que vous aviez dans la tête pendant ces quelques nuits de feu que vous décriviez tout à l'heure. Forcément, ça devait être vraiment très étrange comme expérience.
Ben, c'était étrange, oui, mais c'est la collision, c'est le choc. Mais à dire vrai, comme je vous l'ai dit, je voyais une voix, c'est-à-dire qu'au fond, je ne voyais rien.
Oui, pas de silhouette, pas de représentation.
Voilà, et alors j'avais comme ça des idées, au fond, de personnes qui auraient pu chanter tout en ne chantant pas, parce que vous avez entendu que c'est un chant parlé, mais il n'y avait pas de corps, alors que le texte est très très physique. Et donc j'ai été absolument comblé parce que ce texte appelle la musique. Enfin, il a été conçu Il a été conçu avec le compositeur Yann Robin à travers des conversations. Enfin, c'est lui qui désirait que j'écrive cela pour qu'on fasse un opéra ensemble. C'est un vieux rêve. On s'était rencontrés 10 ans avant et on va continuer. Enfin, on va vers cet opéra. Ça, c'est une première version, je dirais. Et donc oui, la c'est surtout la mise en musique en fait qui m'a sidéré, parce que donner voix à cet interstice entre vie et mort, mettre là à ce point qui à proprement parler n'existe pas de la musique, faire chanter cette lacune, ce hiatus, je dois dire que là c'est quelque chose qui m'a emporté vers un au-delà de la représentation. C'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire. Alors dans les grands textes comme Beckett, enfin comme ceux de Beckett, où je parlais de Duras tout à l'heure, on accède à cette musique intérieure. Et ben là, elle est donnée comme quelque chose de prophétique. Enfin, j'ai eu vraiment la sensation, j'en étais pas sûr en l'écrivant, mais en écoutant et en voyant la musique, puisque c'est un opéra, en voyant la musique de Yann Robin, j'ai pensé que ça disait quelque chose sur un monde qui n'est plus le nôtre, enfin, c'est-à-dire quelque chose en avant. Est-ce que c'est la mort? Je ne sais pas. Je vous disais tout à l'heure que c'est peut-être un ravissement. On est dans une sorte d'abîme, mais pas nécessairement noir, puisque cette femme rassemble ses amours, au fond. Et le langage est encore une forme d'amour. Enfin, moi, je vais vers un, comment dire ça, un amour nouveau pour la parole. Enfin, c'est ça la définition pour moi à venir de la littérature, une recherche amoureuse ou une recherche d'un nouvel amour du langage. Voilà.
Mais finalement, c'est assez beau, assez intéressant, Yannick Enel, que vous disiez, peut-être c'est avant, peut-être c'est après, on ne sait pas exactement, il est question de l'instant, et que tout y est ramassé, mais dans ce ramassé, il y a, comme vous dites, à la fois ce qui est fini, ce qui débute, ou ce qui n'a pas encore débuté, et à vous écouter, je me suis dit, tiens, il parle de la tension entre la naissance et la mort, et cette femme, elle appelle sa mère. C'est quand même pas rien que, que cette espèce de flash d'instant qui, ça se trouve, est l'éternité, ou alors elle est, je sais pas, le 4 millième de seconde où elle s'écroule, peut-être c'est ça. La conversation qu'elle entretient, c'est avec sa mère.
Oui, il y a quelque chose de... Bah, ce que vous me dites m'est clair aussi. Enfin, c'est un texte assez énigmatique. Enfin, je le pense très limpide. Je le voulais comme ça, dans une coulée d'évidence, disons. Mais de quoi ça parle, vraiment? Il y a peut-être quelque chose d'ombilical, vous avez raison. Bon, c'est une femme qui rentre chez elle, qui se sert à boire après une journée de travail et un accident. Sauf que peut-être elle est morte. Et elle va traverser des états qui vont le révéler à elle-même, comme dans le livre des morts tibétains que m'a fait lire Yann Robin et dont il s'est inspiré pour la musique. Mais peut-être c'est très, encore plus simplement, si je puis dire, un état qui est celui en lequel nous résidons à chaque instant, qui est notre naissance, au fond. Effectivement, mais peut-être je suis influencé par la période que nous vivons, qui est tellement pleine de restrictions qu'au fond, on ne sait plus très bien ce qu'il y a avant, après, si on peut espérer quelque chose, et où nous ne souhaitons que... Enfin, je ne souhaite que des excès, au fond. Et donc voilà, où est-ce qu'on en est? C'est aussi le sujet de ce texte. Enfin, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe quand il nous arrive quelque chose?
Et est-ce qu'on est vivant? Est-ce qu'on est aussi vivant qu'on le dit, ou est-ce qu'on est aussi vivant qu'on est en mesure de le crier dans un téléphone?
Alors voilà, ça c'est une question. Oui, ça commence par ça, une femme qui crie dans un téléphone « Je suis vivante », qui le dit à sa mère et qui peut-être est en train de mourir. C'est pas un paradoxe, je pense que c'est la... Je sais pas, en philosophie, on appelle ça le Dasein. Enfin, c'est là qu'on est là. Et être vraiment là, on sait tous que la question de la présence est tout le contraire de l'évidence. Enfin, qui est vraiment présent quand il parle? Qui est vraiment là? Le texte est agité, je pense, par des espèces d'apories métaphysiques, mais c'est aussi une longue coulée verbale qui va vers un progressif appauvrissement, je dirais, des mots dans la bouche. Cette femme fait l'expérience dans ce couloir de quelque chose qui vient à manquer peu à peu, et ce manque est peut-être la substance même de la vie.
Ouais. Et qui apparaît sous la forme des tirets qui petit à petit espacent de plus en plus les mots et font oui. peut-être entrer encore plus de lumière quand cette femme ou bien commence à parler ou bien s'arrête. Elle fait l'expérience de l'aporie, du manque, peut-être d'un silence qui arrive dans le langage, et elle rencontre un ange.
Chacun a en mémoire l'ange le plus connu de notre tradition, qui est l'ange de l'Annonciation. Il y a une jeune fille, presque une enfant, qui reçoit dans sa chambre solitaire la visite de cet être, de cette créature venue de l'au-delà, qui lui annonce qu'elle va porter dans ses flancs un dieu. Cette image, qui est sans doute un des motifs majeurs de notre iconographie chrétienne en Occident, traduit l'obsession que tous les citoyens de la vieille Europe ont pu avoir de l'introduction de la circulation de l'esprit. L'esprit va inspirer les hommes.
Dans un halo de lumière, dans une illumination, j'ai vu l'ange. Ses ailes étaient éblouissantes, comme une forêt de petites lumières avec des verts, des rouges, des bleus, des jaunes. On aurait dit que ses ailes portaient des fruits, qu'elles avaient des yeux, qu'elles étaient en flammes. Et dans ce buisson que l'ange portait sur son dos, il y avait le ciel, la terre, la mer et les arbres. Il avait posé un genou à terre et s'inclinait devant une femme au visage de miel, assise sur un tabouret, qui avait les mains croisées sur sa poitrine. Et tout autour de sa personne, une immense douceur se diffusait, qui accordait au silence une dimension sacrée. Je n'avais jamais vu une lumière comme ça. Elle venait d'où ? Les ailes de l'ange étaient gorgées de clarté, et cette clarté imprégnait l'air. Elle semblait prête à inonder le ventre de la femme qui, en se recueillant, là-bas, sur son tabouret, avec ses couleurs rose et sable, avec son visage pensif, s'accordait à une telle faveur, et qui non seulement disait oui, qui non seulement se nourrissait de la lumière, mais la redonnait au monde. Et ainsi cette lumière nous éclaboussait, toi et moi. Je pourrais pleurer pour cet instant. Cette femme qui nous prenait dans ses bras. J'avais l'impression que c'est moi qui étais enceinte. Quelque chose sort d'un trou et vous fait signe, puis s'absente et glisse dans la mémoire. Ce soir, je me souviens de tout. Ce soir, je reconnais avec précision le visage de mes amants. Ils sont tous là, autour de moi. D'un coup, ils me reviennent. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, tous ceux que j'ai aimés? Les beaux, les chevelus, les bavards, les chauves. Quelque chose sort d'un trou et vous fait signe, et puis s'absente et glisse dans la mémoire. Ce soir, je me souviens de tout. J'ai aimé 5 hommes et 3 femmes. Vous écoutez Par les temps qui courent sur France Culture, on est avec vous, Yannick Enel. Je viens de lire un extrait de Papillon Noir, publié aux éditions Gallimard. Je viens de le lire comme il peut exister aussi, à savoir comme un texte publié, un bref roman, un bref monologue. Et juste avant, c'était la voix de Claude Métra, en 1997, dans l'émission Tire ta langue, qui parlait de l'ange parmi les anges, de l'ange de l'Annonciation. Alors, il est présent, cet ange-là, dans votre texte Papillon Noir. Il est présent presque dans le même éclat de lumière que tout le reste, c'est-à-dire dans le même flash.
C'est vrai que, en vous écoutant, je prends conscience que l'expérience intérieure qu'on essaye d'avoir, au fond, est, on cherche à lui donner une forme. Et cette forme, bien souvent, elle est rapportée. Enfin, on va la chercher comme ça dans des œuvres d'art. Et dans la vie de cette femme, voilà, que j'essaye de mettre en mots là dans ce petit livre. Cette expérience intérieure est complètement, elle vient d'une annonciation, sans doute de Fra Angelico, celle du couloir de San Marco à Firenze, mais elle est entièrement gravée dans son esprit. Elle est sans cadre, voilà, elle est sans bord. Et l'expérience que j'ai imaginée, c'est aussi un sale rêve que j'ai fait il y a quelques années.
Un sale rêve,
ouais.
Genre un cauchemar.
Un cauchemar, quoi. Ah. Voilà. Mais j'aime bien le mot sale rêve.
Ouais, ouais, non, mais c'est la première fois que je l'entends comme ça, je me dis, ouais, écoutez, c'est pas mal de le dire comme
content,
ça.
Je suis content, alors, ouais.
Un sale rêve.
Un sale rêve, ouais. Ça pourrait être un titre de, bah voilà, un livre à écrire.
Ouais.
Un sale rêve. Comme une sale affaire de Jean Stache.
Ouais, c'est ça.
Et ce sale rêve, c'est que, en regardant l'Annonciation, qui, comme chacun sait, met face à face un ange, dont vous décriviez les ailes en lisant le texte tout à l'heure, et puis la Vierge, sous un portique, enfin, dans un même espace, un jour, en regardant dans sa tête, dans son esprit, en se remémorant cette fresque, il n'y a plus d'ange. Il y a un trou à la place de l'ange. Et j'ai décrit la chute de cette femme à l'intérieur du trou de l'Annonciation, c'est-à-dire une Annonciation sans annonce, sans ange. C'est, autrement dit, une solitude dépressive. Pour moi, c'était le soleil noir, vous voyez, la manière dont Henry James parlait de la bête dans la jungle, c'est ça, pour lui, la dépression. Virginia Woolf, parle d'une aile de requin, et moi je me suis dit, c'était pas pour prendre leur suite, mais je l'improvise comme ça ce soir, je me suis dit c'est un trou à la place de la figuration, là où vous avez chaque soir chéri une figure à laquelle vous appelez, celle de l'ange en l'occurrence, et bien un soir il n'y a rien, et vous tombez dedans. Et ce trou, j'ai pensé que c'était une préfiguration de cet instant dont nous parlons depuis tout à l'heure, peut-être celui de la mort, voilà. Vous savez, vous, quand vous avancez quelque part, vous pensez qu'il y a un mur, vous avancez la main et il n'y a rien. Et cette expérience-là de la perte totale des repères, je l'ai appelée papillon noir parce que c'est comme si la lumière n'existerait plus jamais. Je le dis au conditionnel enfantin, on dirait que la lumière n'existerait plus jamais, alors qu'est-ce qui se passerait? Et voilà, c'est ça, l'ange a disparu, il y a un trou à la place. C'est fondamental de cette femme.
Oui, et vous dites c'est l'absence de la figuration, mais l'Annonciation c'est aussi l'absence de la parole, c'est-à-dire que l'ange qui disparaît, ça veut dire qu'il n'y a plus d'annonce, il n'y a plus de verbe, il n'y a plus de façon de dire qu'on est vivant. Et le trou noir dans lequel tombe cette femme, c'est aussi l'impossibilité de proclamer ce qu'elle proclame au début, à savoir « je suis vivante », qui sont des mots bien pratiques pour essayer de le dire, d'une certaine manière.
Oui. Est-ce que c'est la fin de l'esprit dans sa vie, la perte de Dieu, enfin, l'absence de Dieu, ou tout simplement le fait qu'effectivement les mots sont en train de mourir pour elle? Donc c'est une expérience dont je mesure pas bien la percussion, si je puis dire, en chacun. Mais je me souviens de la nuit où j'avais fait ce sale rêve, justement. Je m'en suis pas remis, quoi. Je me suis réveillé ce matin-là, enfin, c'est en pleine nuit plutôt, c'était le cauchemar ultime, parce que ça annonçait quelque chose de pire, au fond. Et ça m'a plu de monter, comme au cinéma, de monter cette séquence que j'avais vécue et de l'attribuer à cette femme Et peut-être que, qu'en un sens, mais ça on s'en fout, je le dis comme ça, ou je me le dis à moi-même, c'est une sorte d'autobiographie folle.
On a envie de dire presque forcément, non? Un peu,
je crois,
avec
oui,
ce texte-là.
Oui, oui. J'imagine. Enfin, en tous les cas, c'est tellement... peu importe, mais c'est un relevé de sensations ultimes, enfin, portant sur l'amour, le désir, toutes les figures qui, comment dire, chez chacun de nous, suscitent une adhésion passionnée à l'existence et aussi à des formes de négation dont nous avons besoin. Donc c'est vraiment... Vous voyez, moi, j'aimerais pouvoir écrire ça tout le temps, enfin... me débarrasser du gros attirail du roman, l'attirail symphonique, disons, du roman, pour faire uniquement de la musique de chambre. Et ce serait beau de pouvoir faire ça tout le temps, mais ça, c'est tellement vertigineux que j'y arrive pas. Enfin, ça fait peur, au fond. Oui, ça fait peur.
Une mélodie pour chanter l'amour, une qui serait jolie, qui le serait toujours, une qui serait toujours belle, nouvelle, une qu'on chanterait encore et encore jusqu'à notre mort. Une mélodie, celle du bonheur, qu'on aurait appris et qu'on chanterait en chœur. Où faudrait qu'elle soit forte, oui, qu'elle porte loin, jusque dans les hauteurs, en couleur. Porte un bonheur, bonheur. Une mélodie sans fausse note aucune, qu'on chanterait ici au clair de la lune, oui, mais même sous l'orage. Des nuages, même pendant la tempête, on trompette ce même message. Mais faut pas qu'on oublie avec le temps ce thème, faut pas qu'il s'enfuit dans le vent ce poème. Cette mélodie, comment on l'écrit? Donnez-nous le la, fa, si, do, ré, mi, et donnez-nous le ton, le bon, et donnez-nous la clé de la chanson.
Il me semble que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Cela peut étonner. Cependant, je crois qu'on doit apercevoir assez vite que la littérature doit mettre en cause l'angoisse, que l'angoisse est toujours fondée sur quelque chose qui va mal, sur quelque chose qui tournera gravement mal. C'est en mettant le lecteur devant cette perspective désagréable qui crée une tension que la littérature évite d'ennuyer le lecteur. Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement puéril dans la littérature.
C'est la voix de Georges Bataille après celle de Mathieu Bogart sur France Culture. Une archive de 1958, donc peu de temps après l'apparition de son livre « La littérature et le mal » en 1957, un petit peu plus tard, dans l'archive, il dit « Il y a quelque chose qu'on peut pas comprendre si on ne situe pas la littérature du côté de l'enfant ». Donc il fait une sorte de c'est marrant, c'est l'image du collier de perles qui me vient à l'instant, mais entre le mal, le caractère puéril et du côté de l'enfance. Qu'est-ce que vous diriez finalement, puisque vous disiez Yannick Enel avec Papillon Noir, c'est comme si j'arrivais un peu à l'os, que j'étais pas obligée d'avoir tout l'orchestre du roman, que je pouvais être un peu plus justement comme chantait Bogart du côté juste du fil mélodique. Et arrivant à l'os, on arrive forcément au mal.
Mais oui, parce que on joue au dé comme un enfant. Et comme vous savez, les enfants sont non seulement ils ne font qu'une distinction entre le bien et le mal, mais ils sont, pour le dire de manière biblique, ils sont du côté de l'arbre de la vie. Enfin, il n'y a que le bien. Et alors arriver à ça quand on est adulte, c'est faut carrément entrer dans un mysticisme forcené, enfin, c'est-à-dire qu'à force de douceur, et j'aime que vous ayez fait entendre la voix de Georges Bataille, qui est d'une douceur décisive, à force de douceur, peut-être que cette funambulie qui est l'écriture, ou ce collier de perles dont j'aime que vous ayez trouvé le fil là, peut-être qu'à force ça va former une sorte de ruban avec l'univers lui-même. Enfin, je pense que ce dont il s'agit, c'est de rompre tout cadre, c'est de jouer avec le temps lui-même. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'il s'agit de ça, enfin, de l'enfance. Enfin, et donc pas de récit. Voilà. C'était la vieille question de Blanchot, je crois, dans La Folie du jour, l'un des plus beaux livres qui soit. Un récit, pas de récit. Et moi, j'ai une passion pour les récits, hein, pour les narrations, pour les narrateurs.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que si, par exemple, mais on pense à Tiens ferme ta couronne,
il n'y a pas de bord.
Enfin,
c'est la passion. Mais voilà, c'est la passion de ma vie. C'est des histoires qui, à force de se raconter, parviennent à l'estompage, je sais pas comment on dit, enfin, à l'effacement de tout bord. Et là, il me semble que dans Papillon Noir, je crois que cette femme déborde de récits au pluriel qui viennent s'entrechoquer dans sa tête, comme ses amants, comme les baisers qui lui font un collier, là aussi, autour des épaules. Et cet érotisme des détails, j'aimerais qu'il tienne tout seul, en fait, vous voyez.
Mais est-ce
comme
que
une robe sur un corps absent.
Mais est-ce que ça veut dire, Yannick Enel, qu'avec ce texte-là, vous avez l'impression de faire quelque chose? Parce qu'à vous écouter depuis tout à l'heure, je me dis, c'est comme si vous touchiez à quelque chose, quand même. Pas un but, mais un instant aussi. Et est-ce que ça veut dire que ça peut transformer des projets futurs, des manières d'être autrement en train d'écrire, par exemple?
Oui, c'est une, ça a été une rencontre, enfin, ce qui m'est arrivé avec l'écriture de ce livre, et puis sa mise en scène, sa mise en musique, sa mise en corps, par Yann Robin, par Élise Chauvin, par Arthur Noziciel, c'est quelque chose qui m'a métamorphosé, oui. Mais comme m'a métamorphosé aussi mon expérience récente des trois mois que j'ai passé au procès des attentats de janvier 2015, où j'ai écrit dans la nuit, enfin, en m'ouvrant à quelque chose de plus grand que moi et qui relevait de la métaphysique elle-même. Enfin, où sont les innocents? Où sont les morts? Enfin, est-ce que les morts peuvent revenir à travers l'innocence des survivants? Et je vais continuer à écrire des romans, mais j'aimerais aller effectivement vers quelque chose qui demande à se dire tout seul, voilà, qui n'est plus besoin de l'orchestration, comme on disait. Ouais.
Mais par ton expérience extrêmement différente et de forme extrêmement différente, vous faites un pont commun entre Papillon Noir, ce texte-là, et ce grand travail que vous avez mené récemment sur le procès Charlie. Il y a quelque chose qui se rejoint ?
Absolument. Oui, ça a l'air bizarre comme ça.
Non, non.
mais pour moi, c'est la différence. Enfin, c'est pas la différence. C'est qu'il y a un pays qui n'est sur aucune carte, où les vivants et les morts se rejoignent. On le sait tous, au fond. On le vit à travers le deuil ou à travers l'amour. Et pour moi, les chroniques judiciaires, entre guillemets, que j'ai faites, enfin, j'ai joué à faire des chroniques judiciaires pendant 3 mois. Il s'agissait de ça, vraiment, enfin, de faire entendre cette parole des morts à travers les vivants. Enfin, je n'ai jamais perdu de vue pendant les 53 jours d'audience harassants où les attentats continuaient, où le Covid venait au tribunal. Je n'ai jamais perdu de vue, le nom des morts, parce que j'ai écrit ça pour Charlie Hebdo et que ce sont mes amis. Enfin, et voilà, Papillon Noir, il s'agit de ça, d'essayer de toucher au plus près ce point où on est vivant, on est mort. Je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux, est-ce que c'est un tiret justement, ou une barre, je ne sais pas comment on dit, un schlash, je ne sais pas quoi, sur le clavier, ou une parenthèse, ou une virgule, ou rien. Qu'est-ce qu'il y a entre ? Et pour moi, écrire des chroniques... dans un tribunal, enfin, je le referai plus, hein, mais je l'ai fait comme ça parce que c'était nécessaire. Ou écrire un texte comme Papillon Noir, je dirais que c'est pareil. Enfin, la littérature, il n'y a pas d'hiérarchie. J'écris tout le temps, tous les jours. Ça peut être des notes de lecture, ça peut être une page de roman, ça peut être un monologue pour rien ni pour personne. Mais c'est toujours quelque chose que j'appelle passionnément littérature et qui est ma... qui est une offrande à ma déesse, je dirais, pour le dire de manière trop emphatique, mais et timide au fond.
Merci beaucoup Yannick Hennel. Papillon Noir, suivi de Longer à pas de loup, publié aux éditions Gallimard, et on mettra évidemment sur le site de Parler Temps qui court à l'adresse franceculture.fr les liens vers ces textes de Charlie et la publication, et aussi l'émission que vous avez faite au micro de Guillaume Herner. Un grand merci.
Merci à vous.
Au son ce soir, c'était Anthony Thomasson, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Juliette Hamon. Tout se retrouve sur franceculture.fr, mais aussi sur l'application Radio France. On peut s'abonner au podcast de Parler Temps qui court. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. J'espère que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. J'espère que vous l'avez fait. Enfin, je sais, n'attendez pas que je le dise pour le faire. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Allez, très belle soirée à toutes et à tous. J'appréhende.